French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Mais toujours avec cette idée en tête, toujours avec cette idée en tête. Non, c'était toujours là et clairement, je voulais partir de France et jamais j'avais pensé à partir en Australie. Donc, on prévoit l'entretien ce lundi avec... je me souviens, Skype se met en route et je vois ce week-end. Plus tard, donc, mon boss qui me parle depuis la terrasse, le balcon de la boîte avec quasiment le bruit de la mer en fond sonore.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Aujourd'hui, je vous emmène en Océanie et plus précisément à la rencontre d'Adélaïde qui vit depuis quelques années en Australie. Mais avant de poser ses valises sur cette île, Adélaïde a connu d'autres expatriations. Originaire de la Vendée, dans l'ouest de la France, elle quitte le cocon familial à 18 ans, assoiffée d'aventure. Comme elle nous le raconte dans son interview, Adélaïde a toujours souhaité voyager et vivre à l'étranger. Elle part donc faire ses études en Norvège. Cette expérience la conforte dans ses envies d'aventure et de retour en France, elle cherche une nouvelle destination. Ce sera cette fois l'Espagne. Elle rentre en France pour finir ses études et obtient un master en communication digitale. C'est à Lyon qu'elle commencera sa carrière professionnelle. C'est son patron de l'époque qui l'amènera à postuler, sans trop y croire, pour un job en Australie. Qu'elle ne fut pas sa surprise quand une réponse positive lui est donnée. C'est parti pour l'aventure à plus de 16 000 km de la France. Dans cet épisode, Adélaïde nous raconte la difficulté à vivre cette nouvelle vie loin de ses proches, mais aussi les petits bonheurs du quotidien qui lui permettent de vivre une vie dont elle avait toujours rêvé. Je vous emmène donc à la découverte d'Adélaïde. Bonne écoute! Bonjour Adélaïde, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour.
C'est super de t'avoir pour cet enregistrement, pour cet épisode. Alors, tu es dans un pays très très loin de moi, ce qui fait que on est presque plus 12 heures, même plus par rapport à mon heure.
Quasiment à l'opposé.
Quasiment à l'opposé, donc c'est ça. Alors Adélaïde, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles et qui es-tu, nous donner un petit peu d'infos sur toi?
Pas de souci, donc je suis Adélaïde en effet et je vous parle en ce moment de Sydney en Australie.
Et là donc je t'enregistre vendredi soir 18h30 et quelques et pour toi donc on est samedi matin.
8h30 samedi matin, oui.
Alors Adélaïde, d'où est-ce que tu viens ?
Alors je viens de France donc et je viens de Vendée, une ville qui s'appelle La Roche-sur-Yon dans l'ouest.
D'accord.
Et j'ai grandi là-bas jusqu'à à peu près mes 18 ans où j'ai commencé à partir. Je suis partie à La Rochelle pour mes études et ça a été le début de la fin pour mes parents. Je pense quand le moment où j'ai quitté la maison et je suis toujours partie de plus en plus loin.
Et tu n'es jamais revenue, enfin, à part pour les vacances, j'imagine, mais voilà, ça a été le...
Oui, voilà, c'est ça.
C'est à ce moment-là que tu as pris ton envol.
C'est exactement ça.
D'accord. Alors, à 18 ans, quand tu pars pour La Rochelle en études, c'est loin de La Roche-sur-Yon, je ne me rends pas bien compte.
Non, à ce moment-là, on a commencé doucement, ça faisait une heure et demie à peu près de chez moi, donc classique étudiant, rentrer le week-end, ça allait. Mais j'ai toujours su que je voulais pas rester en France.
C'est vrai.
C'est quelque chose qui a toujours été en moi. Je me souviens quand j'étais adolescente déjà. À l'époque, je rêvais des États-Unis et je rêvais de San Francisco à l'origine. Essentiellement parce que j'avais un peu trop regardé Charmed. et clairement, c'était ce qui m'intéressait. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, je voulais faire du droit. Et une des questions qui me trottait en tête, c'était oui, mais si je fais du droit, je vais être coincée, je vais être dans le droit français et je vais être coincée en France. Et ça me perturbait, parce que je savais que je voulais pas rester en France.
D'accord. Et le droit international, c'est pas possible en France ?
Non, parce que je voulais faire du droit criminel.
Ah oui, d'accord. Ah oui, en plus bien bah spécifique, oui. Forcément.
Donc du coup, bah, plutôt que d'abandonner l'idée de partir en France, j'ai abandonné l'idée de faire du droit et je suis partie dans le marketing.
Ah oui, complètement différent.
Ah, c'est ça. Et donc j'ai fait mes deux années de DUT à La Rochelle et à la fin de ces deux années, donc je regardais pour partir faire une licence et à l'époque, moi j'étais toujours en train de regarder ailleurs en France, donc plus loin, mais toujours en France. Et j'avais des copines qui avaient signé pour un diplôme, c'est un diplôme universitaire à l'étranger, donc ça a différents noms selon les régions et elles partaient en Norvège un an. Après ça.
Waouh, d'accord.
Et moi, c'était quelque chose que j'avais pas spécialement regardé parce que ce diplôme-là, il donne pas la licence. C'est un an en plus, mais en revenant en France, il aurait fallu que je refasse une licence. Donc c'est vrai que à l'époque, j'avais pas plus regardé que ça. Mais en faisant mes recherches pour chercher une université en France, ça me gonflait toutes les process, les paperasses. Je savais pas ce que je voulais faire. Et je me souviendrai toujours. C'était un dimanche. J'étais chez moi, chez mes parents. Et j'ai balancé à ma mère, ça me saoule, si c'est comme ça, je pars en Norvège. Et ma mère me regarde, wow. Pardon.
Pardon. Des buts en blanc.
Ça vient d'où? Et je lui dis, les filles, elles partent en Norvège, pourquoi pas? Attends, je vais regarder ce qu'ils ont, peut-être qu'ils ont des programmes, peut-être que je peux m'incruster. Et je vois, oui, tiens, il y a des choses.
Donc là, là on est début, enfin, au cours de l'été.
On est en mai. Je dirais en mai.
Ah ouais.
Donc, ça aurait été mai 2008, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est vraiment, ça sort de nulle part. Hein.
Ah, mais complètement. Complètement de nulle part. Juste parce que les inscriptions en France me gonflaient. Et donc, je retourne à l'IUT la semaine suivante, le lundi, et je vais voir... Alors, ça aurait été un peu plus que ça, parce que c'était avant le stage. Donc, mars, potentiellement, ce qui est un stage de fin d'année.
D'accord.
Qui va commencer en avril, donc juste avant le stage. Et je vais voir ma responsable de DUT, et je lui dis bonjour. Bon, je sais que tout est fermé, que les places ont déjà été attribuées, mais est-ce qu'il y aurait pas, parce qu'il y a pas moyen de s'incruster. Et j'ai eu la chance.
Une place quelque part.
C'est ça. J'ai eu la chance que j'étais majeure de promo.
D'accord.
Depuis le début. Donc, c'était les trois semestres qui s'étaient écoulés, j'avais toujours été majeure de promo. Donc, bon, potentiellement, j'avais des facilités. Et ma prof me dit, c'est pas gagné. Je vais envoyer une demande à la Norvège. On va voir ce qu'ils disent. Au final, ils ont vu mon dossier, ils ont accepté tout de suite. J'ai même été acceptée avant mes copines qui avaient suivi la voie officielle.
Waouh !
La seule différence, c'est que j'étais pas dans ce programme spécial. En revanche, j'étais directement en licence. Donc moi, j'avais le droit à ma licence. Par contre, je devais payer les frais comme si j'étais en licence en France, alors que elles étaient ralliées à l'IUT, donc elles avaient des facilités de ce côté-là. C'était la seule différence. Mais au final, ils m'ont dit « Ok, tu peux partir et en plus, tu auras ta licence. »
Voilà, c'est ça. Au final, toi, tu sautes une étape. Cette année en Norvège, t'as été utile pour ta scolarité.
Absolument.
Pour scolaire, du coup.
Absolument. Ça m'a compté comme une année de licence. Donc, en venant en France, j'ai pu commencer directement en master. Donc, au final...
Et alors, cette année en Norvège, ça t'a conforté dans ton idée de partir ?
Absolument. Donc, je suis partie en août. Donc, évidemment... C'est vrai que c'était pas du tout un pays que j'avais du tout considéré, que ça s'est vraiment fait sur un coup de tête complet. Et ça a été génial. Le fait d'avoir tous les cours en anglais, l'anglais c'est toujours une langue qui m'a beaucoup attirée, et le fait de pouvoir parler en anglais tout le temps, ça c'était, pour moi c'était presque un rêve. C'était quelque chose que vraiment qui m'attirait. Et puis oui, le fait d'être en contact avec tous les internationaux, donc c'est la bulle Erasmus. Qui est une espèce d'univers à part où voilà, c'est beaucoup de fêtes, on est un peu déconnecté de la réalité avec les autres internationaux, mais mais c'était vraiment génial. On a vraiment profité pour bouger, pour visiter la Suède, le Danemark, prendre des vols EasyJet à la dernière minute le week-end quand il y avait quelque chose à faire en Europe. Donc, c'était vraiment une excellente année.
Wow.
Et en rentrant en France à la fin de cette année-là, donc il a fallu que je retrouve quelque chose d'autre. Et là, déjà, l'idée de retourner en France complètement en français, j'ai eu un gros coup de blues à la fin de cette année-là. Je voulais rester dans un domaine qui touchait à l'international. Donc, j'ai fait un master de communication internationale. J'ai commencé, qui était à Dijon. Qui me déprimait complètement de partir à Dijon à l'époque, même si je suis désolée s'il y a des gens qui écoutent de Dijon, mais à l'époque, c'était un peu ça. Et au final, j'ai adoré mon année, je me suis fait plein d'amis, et pas de soucis.
Tu avais un a priori sur la ville, en te disant, après la Norvège, je vais m'enterrer quelque part et je vais rien trouver à faire.
Ah, mais je vais m'ennuyer comme un rat mort, je veux pas y aller. Surtout qu'à l'origine, j'avais été acceptée à Aix-en-Provence dans un master bilingue et juste pour simplement des raisons financières, ça n'avait pas été possible parce que l'année était beaucoup trop chère. Donc, passer de Aix-en-Provence, master bilingue à va faire ton master à Dijon.
Oui.
Dans ma tête, c'était pas, c'était pas.
C'était un gros changement, ouais.
Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année de master m'a ensuite ouvert un stage. Et le stage, je me suis dit encore une fois que j'allais pas rester en France. Et pour des sombres histoires de garçons en se trouvant à Barcelone, j'ai décidé d'envoyer une candidature spontanée à une agence au PIF que j'ai trouvée à Barcelone et qui m'a acceptée.
Ah oui.
Donc, encore une fois, ça a été de la décision coup de tête et ça a été fait un peu à l'arrache, on va dire, et pour des raisons plus que douteuses, mais c'est passé.
Et tes parents, comment ils le vivaient, ça? Ton départ pour la Norvège, tu reviens, puis tu repars.
Ah, mes parents, à partir du moment où le départ pour la Norvège a été difficile, a été très difficile, mais je pense que pour ma mère, c'est surtout quand, même si c'était proche, c'est surtout quand je suis partie de La Rochelle, parce que c'était la première fois que je suis partie, où ça a été difficile. C'est marrant parce que mon petit frère est parti de la maison cette semaine, à 23 ans, et j'ai envoyé un message à ma mère pour savoir comment ça allait, le fait d'être toute seule maintenant, et elle m'a dit « j'ai pas pleuré parce que j'avais déjà pleuré suffisamment pour toi quand t'es partie à La Rochelle ». Donc, comme quoi, c'était vraiment le truc qui a été le plus dur. Après, c'est pour ça que je pense que c'était le début de la fin. Ils ont compris qu'à ce moment-là, j'allais pas revenir trop proche de sitôt. Donc, Barcelone, à la limite, ça allait. C'était que pour un stage, donc c'était 3-4 mois. C'est relativement proche quand même de la France. C'est facile d'accès, donc ça allait complètement là-dessus. Ils étaient contents pour moi. Et je suis partie en Espagne. Je parlais pas un mot d'espagnol. Mais pas un mot. J'avais fait allemand LV2. Je parlais pas un mot. J'avais fait un mois de cours sur Internet, sur des sites... n'importe quel site, l'équivalent d'un peu de ce qu'on aurait du Olingo maintenant, mais qui me semble n'existait pas à l'époque. Ça, c'était en 2010. Et donc, je suis arrivée là-bas. Heureusement, j'avais quelqu'un qui pouvait m'héberger au départ, le garçon en question. Et il a fallu que je trouve un appart. Donc, il a fallu que j'achète un téléphone et que j'ouvre une ligne de téléphone et que je passe des coups de téléphone en parlant pas un mot. Donc, c'était très drôle parce que je me concentrais quand j'appelais pour une visite, je baragouinais ce que je pouvais et je me concentrais sur comprendre le lieu et l'heure à laquelle je pouvais venir visiter et le reste, j'essayais de filtrer parce que vraiment, c'était très compliqué.
Et en plus, Barcelone, ils parlent pas forcément castillan, mais catalan, donc pas toujours simple de les suivre.
Non, mais je pense que pour les étrangers, ils font plus un effort de parler en castillan. Mmh. Ouais, s'ils voient que déjà c'est la galère,
ils s'embêtent pas à parler en catalan là.
C'est ça. Mais bon, déjà la pauvre, ça a l'air compliqué pour elle. On va être sympa. Et j'ai trouvé une coloc avec deux Italiennes. Et donc je bossais pour cette agence de communication qui était une agence tenue par des Danois avec lesquels je parlais en anglais et parfois en allemand parce qu'on avait un client allemand. Donc, ma vie au quotidien, c'était moi, française, en Espagne, à vivre avec des Italiennes, à bosser pour une agence danoise en anglais. Dans ma tête, c'était n'importe quoi.
Ah, ça devait être le chaos.
je me souviens de me réveiller certains matins et de regarder mes colocs et de pas savoir quelle langue j'étais censée
leur parler.
Ah ouais. Je savais pas. J'ai aucune idée. C'était c'était
compliqué.
Le chaos. Ouais. Surtout que même eux, si mes boss, ils parlaient en danois entre eux, c'était une toute petite agence, c'était juste mes deux boss et moi-même. Et eux, entre eux, parlaient en danois, et avec mon année en Norvège, où j'avais du coup assimilé pas mal de Norvégiens, j'arrivais à comprendre à peu près ce qu'ils racontaient. Donc, je pouvais même pas le mettre en bruit de fond complètement, parce que j'essayais toujours de comprendre de quoi ils parlaient, même si en général, c'était surtout une histoire de qui est-ce qui va faire le café. Mais bon, c'était déjà ça. Donc c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Avec mes colocs, je parlais en espagnol, donc c'est vrai qu'à la fin des 3 mois, je parlais pas trop mal espagnol, je pouvais pas l'écrire, ce que j'ai jamais appris en cours, j'ai jamais appris à écrire. Par contre, je comprenais, je pouvais avoir une conversation et je parlais sans trop de soucis.
Et maintenant, tu seras capable de le parler ou tu penses que t'as tout perdu?
Je le comprends encore correctement et ça revient quand, si je suis dans une situation, j'ai eu une situation ici avec mes collègues qui parlaient en espagnol et ça revient relativement rapidement.
D'accord.
Mais ma grammaire, par exemple, est catastrophique parce que j'ai jamais appris la grammaire. J'ai vraiment tout appris à l'oreille et au parler. Donc, je dirais pas que je parle bien espagnol, mais je peux me débrouiller, je peux me faire comprendre et comprendre des conversations. Et
donc, tu parles anglais, tu peux te débrouiller en espagnol, tu te débrouilles en norvégien, en allemand.
En allemand.
C'est pas mal.
Mais c'est. Peut-être que je parlerai plus tard de la fois où j'ai appris le russe pour faire une blague à une collègue aussi.
Mais non, t'es...
J'avais une de mes collègues ici qui est une très très bonne amie et qui est russe et elle a commencé la danse classique donc elle me sortait 2-3 mots de français en danse classique et moi je me suis dit attends je vais faire une blague je vais apprendre le russe parce que c'est mon idée de la blague apparemment donc pendant 3 mois minimum j'ai fait du Duolingo tous les jours en russe juste au moment où j'ai pu me pointer au bureau et commencer à lui parler en russe juste pour voir sa tête.
Oh purée.
C'est
machiavélique.
Voilà.
Et puis là, elle a dû s'imaginer que tu parlais vraiment bien russe. Elle commence une conversation et t'es incapable de suivre.
Mais j'ai pas trop mal. Je comprends encore pas mal de trucs en russe. Et là, pendant le confinement, je m'y suis remise un peu sur Duolingo, ce que j'avais que ça à faire. Mais c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les langues et c'est quelque chose que je chope assez rapidement. Donc heureusement, je pense que ça m'a sauvée quand j'étais à Barcelone.
Ouais, oui, sans doute. Ouais.
Ça aurait été... Surtout qu'à vivre avec 2 Italiennes, entre elles, elles parlaient italien, mais avec elles, je parlais en espagnol. Ce qui fait que ça se ressemble quand même énormément, et c'est assez proche du français. Ce qui fait qu'à la fin, je me rappelle de fois où elles parlaient entre elles en italien, et moi, je répondais en espagnol, et à un moment, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais tu as compris ce qu'on venait de dire? Pourquoi? C'était quelle langue? Je sais plus. Qu'est-ce que vous parlez? Non, mais c'était d'italien. Je dis, bah oui, bah apparemment maintenant je comprends l'italien. Donc,
allez-y. Oh là là, t'as quand même des facilités.
Je le parle pas du tout, mais je pouvais le comprendre juste, je pense que c'est juste parce que je l'entendais tous les jours et que c'est si proche de l'espagnol.
Suite à ce stage, du coup, qui a duré 4 mois, c'est ça?
3-4 mois, ouais. Après, je suis rentrée en France et là, je suis restée en France pour un petit moment. Je suis partie à Paris, j'ai travaillé à Paris pendant 1 an chez eBay. Ce qui a été quand même très bien parce que j'avais énormément de contacts avec les bureaux en Angleterre, aux US, donc je pouvais continuer de parler anglais quasiment constamment.
Et t'as jamais pensé à postuler pour en Angleterre ou aux États-Unis à ce moment-là?
À ce moment-là, dans l'idée, j'avais encore l'idée de faire une alternance chez eBay, de reprendre mes études. Au final, j'ai pas vraiment repris à ce moment-là. J'ai fait mon année complète chez eBay.
D'accord.
Et puis j'ai rencontré quelqu'un au tout début de mon arrivée à Paris. Et après un an, donc lui habitait à Lyon, et donc après 1 an, j'ai déménagé à Lyon et j'ai repris une année d'études en master de communication à Lyon juste pour avoir 1 an de master. Parce que celui à Dijon, au final, je l'ai pas validé parce qu'il m'avait gonflé, donc j'ai abandonné.
D'accord.
Et j'ai juste utilisé pour pouvoir faire le stage et après j'ai plus ou moins jeté l'éponge là-dessus. Mais j'ai fait un master en communication digitale à Lyon ensuite.
Et donc du coup tu pars à Lyon pour rejoindre
mon copain de l'époque.
Ton copain de l'époque, voilà, pour
devenir mon mari plus tard.
D'accord.
Et donc je suis restée à Lyon.
Et tu fais tu fais un master, mais derrière tu es restée à Lyon pour le travail ou vous avez rebougé?
Je suis restée à Lyon, mais après mon année de master que j'ai fait plus ou moins en alternance, déjà je suis partie de l'entreprise, j'ai refusé le CDI qu'ils me proposaient déjà parce que dans l'idée je voulais partir.
Ah, d'accord. Ah,
c'est quelque chose.
Cette envie de partir, c'était pas présente.
Non, c'était toujours là et clairement, je voulais partir de France et donc mon copain à l'époque était aussi sur la même longueur d'onde. On voulait tous les deux partir, donc c'était quelque chose qu'on regardait.
D'accord.
C'était assez difficile. Au final, j'ai trouvé un boulot en France au début, au moins pour prendre le temps de voir venir. Mais toujours avec cette idée en tête, arrive 2012, on se fiance, on commence à préparer le mariage pour mai 2014. Et je travaillais donc dans une boîte française à ce moment-là qui faisait un domaine assez particulier. Ils faisaient des solutions d'email compétiteur, comment on dit en français? Je sais même plus. La compétition, en gros, de Gmail, Outlook, ce genre de solution. Donc, quelque chose d'assez pointu où il n'y a pas énormément de boîtes dans le monde qui font ça.
D'accord.
Et je devais refaire leur site internet et je regardais donc ce que faisaient la compétition. Les concurrents, exactement, c'est le mot que je cherchais. Ce que faisaient les concurrents au niveau mondial. Et je tombe sur cette boîte qui est une boîte australienne, et je regarde, et là, on voit, ça arrive frais de moi, il fait « Oh, puis regarde-les, en plus, les chanceux, je pense pas qu'il utilise le terme chanceux, mais pour un respect de... pour être un peu plus poli, on va utiliser ces mots-là.
D'accord.
Regarde les chanceux, où ils sont leurs bureaux, ils sont à 50 mètres de la plage, qu'est-ce que je donnerais pas pour être là-bas. » Et je pense qu'il aurait encore regretté ces mots, parce que moi, je regarde sur...
T'as mis la puce à l'oreille.
Bah, un peu, puis en regardant le site, regardez ce qu'ils font, j'ai regardé la partie emploi, et il se trouve qu'ils recherchaient quelqu'un qui avait exactement mon profil, ils recherchaient une responsable marketing, c'était exactement le même domaine. En gros, la boîte était la sœur jumelle de ma boîte, mais à l'autre bout du monde.
Waouh. Et avec toi, et toujours cette envie de partir, en plus, en tête.
C'est ça, donc là, on était quand même début novembre 2013, je me mariais en mai 2014, quand même. Hein. Donc,
en Australie, 8 mois plus tard, j'en avais pas.
Ouais, et jamais j'avais pensé à partir en Australie. C'était pas du tout nos plans avec mon fiancé à l'époque, c'était les US ou potentiellement le Canada, parce qu'on savait que ce serait peut-être un peu plus facile. On regardait vraiment, on était vraiment au début de regarder, on se disait on se marie ici, et une fois le mariage fait, on commencera vraiment à regarder ailleurs. Mais là, il y a cette opportunité en Australie, donc j'envoie mon CV. Je fais mon CV en anglais, j'envoie mon CV complètement à l'arrache, comme d'habitude, sur un coup de tête. Ça a vraiment été le fil directeur, ça, de toutes mes expériences.
Tout sur un coup de tête.
C'est ça. Allons-y. J'envoie mon CV. Bon, après une semaine, deux semaines, pas de réponse. Entre-temps, j'avais commencé à regarder les modalités d'expatriation et d'immigration en Australie, et partout, ils disaient que c'était quand même relativement compliqué. Trouver un boulot en Australie si t'es pas sur place et que t'es étranger, avec les histoires de visa, oublie. En gros, partout, tous les forums, c'était ça. C'était faut être sur place, et même sur place, c'est compliqué pour les visas. Donc, on disait, bon, tant pis, j'ai essayé, j'en ai mon CV. Bon.
Bah, tu pensais pas et du là... tout avoir un retour hein. positif,
ah,
en
non,
tout cas.
Ah non, et puis ça faisait une semaine et demie à ce moment-là, j'avais rien reçu. Bon, pour moi, c'était un coup dans l'eau, mais bon, c'était marrant le temps que ça durait, quoi, l'espoir.
Oui, puis,
et là, un vendredi matin.
Ben voilà.
Oui, ah, c'est ça. Parce qu'un vendredi matin, je reçois un email, je regarde. L'email faisait trois lignes. Je pense que ces trois lignes, je les ai relues 20 fois pour être sûre que vraiment, vraiment, c'était bien ce qu'il disait. Il disait, bonjour, on est intéressé par ton profil. Est-ce que t'es dispo pour qu'on discute sur Skype?
Waouh.
Ah.
Waouh. Les montagnes russes.
Ah. Ah. Puis en plus, je dis ça, j'étais au bureau, donc fallait pas que je montre. Fallait pas que je commence à sauter partout parce que c'est compliqué. Et puis, bon, il fallait pas non plus trop que je m'emballe en avance, mais je réponds, je fais, bon, bah là, on est vendredi, je suis au bureau, mais le lundi, c'était le 11 novembre, donc le lundi était férié, donc ça tombait parfait. J'ai dit, lundi, je suis dispo, je suis chez moi, pas de souci pour lundi. Je fais, bon, ok, on fait ça. Donc, on prévoit l'entretien ce lundi avec... je me souviens, Skype se met en route et je vois celui qui est plus tard, donc mon boss qui me parle depuis la terrasse, le balcon de la boîte, avec quasiment le bruit de la mer en fond sonore.
Oh là là.
On était en novembre en France. Novembre, c'est quand même le mois qui est bien déprimant. Qui est
ouais, novembre et mars en France, c'est les mois les moins fun. Hein.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, en face de moi, j'avais la mer, le soleil, les oiseaux. Ça met quand même un peu dans l'ambiance. Et donc, on discute rapidement. Je crois que ça a duré même pas 30 minutes, l'entretien. Et à la fin, il fait, bon, bah, écoute, moi, ça me paraît pas mal. Quand est-ce que tu pourrais être là? Enfin, je vais parler au RH pour le visa. Enfin, tu veux peut-être réfléchir?
Oh, purée. Pardon. C'est fou.
C'est fou. Ah oui, oui. Ah, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et je suis, ah. Bah, écoute, non, moi, le boulot, ça me paraît très similaire à ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Je veux partir, donc, bah. Non, ça ira, j'ai pas besoin de réfléchir, on peut lancer le truc.
Il y a pas eu de négociation sur comment non. venir en Australie, comment tout mettre en place, ça a été une évidence.
Ah bah non. Ah bah voilà, c'était wow. Et donc on était le 11 novembre et il fait quand est-ce que tu pourrais commencer? Je suis, oh, bon, pouf, je me marie quand même en mai, donc bon, est-ce qu'il y aurait moyen, je sais pas, de faire à distance avant? Il fait, ah, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est tu viens avant et puis on te laisse repartir un mois pour finir d'organiser tout ça en France au moment du mariage.
Waouh.
Du cool. coup, à ce moment-là, on fait, bah d'accord, bon, bah début janvier, donc.
Et là, ton un fiancé le... est au courant? Enfin, sait que
oui, alors de ce que...
passé et que t'es prête à accepter?
C'est-à-dire que de ce qu'il m'a dit, il était de l'autre côté du mur, l'oreille contre le mur, en train de sauter sur le canapé.
Donc, ah, c'est énorme.
Donc il était, il bossait pas lui à ce moment-là, donc ça tombait parfaitement.
D'accord.
Et donc là, je suis bon, bah apparemment on part en Australie début janvier.
Début janvier, j'avais pas rebondi en fait, mais attends, l'entretien
un mois
début novembre. Waouh. Wow.
Un mois et demi en gros plus tard, ouais, moi c'est ça.
Et alors là, faut l'annoncer aux familles, faut rendre son appartement, faut déménager. Comment vous avez fait?
Faut finir d'organiser le mariage aussi accessoirement, ah, qui ouais. était 6 mois plus tard.
Oh là 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 là.
Ah bah c'était sport parce que bah évidemment c'était déjà l'annoncer à tout le monde, c'est alors on part en Australie, mais vous touriez mariez toujours en mai? Oui oui, en France. Oui, genre et
oui, c'est non, ça c'est, et
on viendra. D'un côté c'était rassurant parce que ça permettait de partir, on savait qu'on avait un billet de retour pour 3 mois après, donc si jamais il y avait quoi que ce soit, que ça nous plaisait pas, que ça se passait pas bien,
oui.
On avait ce billet oui. de retour, dans tous les cas fallait qu'on rentre en France. Donc ça faisait un peu un espèce de filet de sécurité, il y avait un côté rassurant, et je pense que pour nos familles aussi, savoir que certes on partait à l'autre bout du monde, mais dans 3 mois on revenait, bon, ça aide à faire passer la pilule un peu. Ça a pas été facile là, par
ouais,
contre
j'imagine, quand même.
Mes parents, ça a été très compliqué. Le moment de l'annonce, ils étaient contents pour moi, mais et je me souviens, ma mère m'a dit, de toute façon je savais que t'allais partir, mais dans ma tête je pensais que tu partirais aux US, pas en Australie, le plus loin possible de la France.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que les US c'est loin, mais bon, ça reste facilement du vol direct. C'est pas 24 heures de trajet, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que selon où tu travailles, si c'était San Francisco, si vous étiez parti pour la Californie, ça reste 15 heures de vol, c'est ça à peu près. Là, c'est 24 heures, quoi. Ah, ouais.
Ah, c'est minimum 24 heures.
Bah oui.
Il faut prévoir les escales et puis avec le décalage horaire, c'est bon. Donc, ouais, c'était un peu plus compliqué, mais nous voilà donc partis début janvier et partis en Australie.
Et pour
donc,
des questions, je te coupe, mais des questions de visa, ah, comment vous avez fait, comment ça s'est mis en place, tout ça, parce que là, du coup, c'est la boîte qui te veut, donc c'est, j'imagine
exact.
Que c'est eux qui ont fait les démarches.
Donc il y a un visa qui n'existe plus actuellement, c'est-à-dire que si je voulais partir maintenant, si toute cette histoire arrivait maintenant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi.
D'accord.
J'ai eu de la chance sur le temps, il y avait un visa qui s'appelait le 457, qui était en gros, c'est quand les boîtes disent on recherche quelqu'un, mais on n'arrive pas à trouver un Australien qui correspond au profil, donc on veut embaucher cette personne.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient...
C'est un sponsor.
C'est ça, donc ils ont quand même fait la recherche en Australie, mais ils n'ont trouvé personne.
Voilà, c'est... Alors, ils ont pas fait, mais c'est le message qu'ils font passer.
Oui, bien sûr.
Et donc ça prend du temps. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on est arrivé en janvier avec un PVT, un permis vacances-travail, donc temporaire, qui permet de bosser pendant 6 mois pour la même boîte.
Et ça, c'est facile à obtenir?
Le PVT est très, très simple. Ça se fait en ligne et en même pas 24 heures, ça peut être approuvé. Donc
c'est vrai
extrêmement simple.
D'accord.
Ouais. C'est le plus courant de tous les Français qu'on voit qui partent faire un an ou deux en Australie, c'est que des PVT.
D'accord.
C'est ce principe-là. Donc on a fait ce visa qui était simple, qui nous permettait d'arriver, qui me permettait de bosser pour 6 mois. Et le fait de bosser dans cette boîte pour 6 mois m'ajoutait des compétences qui permettaient ensuite à ma boîte de dire, ben voilà, on veut quelqu'un qui a de l'expérience avec tout ça, tout ça, tout ça. et expérience que moi j'avais parce que je venais de bosser pour eux pour 6 mois, donc c'était un petit peu bon, pas douteux, mais c'était une petite fraude
rapide.
C'est ce qu'ils font parce que les critères sont tellement durs que c'est très compliqué pour les boîtes d'embaucher des étrangers déjà à l'époque. Donc c'est ce qu'on a fait. On est arrivé en PVT, donc c'était simple. Et puis après on a commencé les démarches pour faire ce visa 457 qu'on a validé pendant que j'étais en France, parce qu'il y avait aussi un coût. Je crois que c'était moins cher si on validait hors du territoire australien.
D'accord. Donc,
vu qu'on venait pour le mariage. On avait fait toute la paperasse avant et on a appuyé sur le bouton OK.
Une fois à la France, d'accord. C'est ça. Pas besoin aussi, de passer à l'ambassade australienne?
Pas du tout. Non, ça se faisait en ligne. Tout se fait en ligne. L'Australie est très, très bien là-dessus. Quasiment tout se fait en ligne.
D'accord.
Il y avait aussi le fait qu'on voulait attendre le mariage pour le faire parce que c'était plus facile pour mon mari à ce moment-là d'avoir un visa de mariage plutôt qu'un visa de couple sans mariage. Parce que si on est juste en de facto, en gros, juste en couple, il faut justifier énormément de choses, il faut des témoins, alors qu'en mariage, il y a le certificat de mariage et c'est bon, c'est plié, quoi. Donc, on a attendu le mariage, on a attendu d'être en France pour finaliser la demande.
Le dossier, d'accord. Okay.
C'est ça. Il me semble que ça a pris, pour être approuvé, c'était relativement rapide. Il me semble que ça a pris un mois à peu près pour être validé.
Donc vous êtes quand même rentré en Australie en attendant la fin de que la demande soit acceptée.
C'est ça. On était en visa bridge à ce moment-là.
D'accord.
C'était le bridge. Donc on était entre deux visas. On avait une demande en cours. Donc on est rentré comme ça. Ce qu'il fallait que ma boîte soit approuvée. Ma boîte était déjà approuvée en tant que sponsor. C'est aussi pour ça que ça a été rapide, parce que j'étais pas la première qui passait sur ce visa-là. Si j'avais été la première, ça aurait été plus long.
Oui, parce
que j'avais cette facilité.
Toi de montrer patte blanche, j'imagine.
C'est ça. Il faut qu'ils montrent qu'ils investissent un certain montant tous les ans dans la formation d'Australiens. Ils sont vraiment assez protectionnistes là-dessus, les Australiens.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'a surprise. Et donc, ce que j'ai même pas dit, où est-ce que j'étais à ce moment-là? Parce que j'étais pas du tout à Sydney. J'étais sur la Sunshine Coast, qui est une région à 1h30 au nord de Brisbane, donc sur la côte est. Donc c'est à peu près, si on prend la carte de l'Australie, sur la côte est et au milieu. Dans l'état du Queensland et la Sunshine Coast, c'est vrai que quand on est arrivé là-bas, on a regardé et on a fait « Ah non, mais on habite là en fait, on n'est pas en vacances, on habite là ». Pour donner une référence, pour ceux qui ont vu Mad Max 2, quand il sort les cartes postales et qu'il fait « C'est là qu'on va, c'est le paradis », la carte postale en question, c'était de la Sunshine Coast.
Waouh, d'accord.
C'est des images vraiment de l'eau turquoise, des palmiers, c'est des petites villes, c'est vraiment paradisiaque.
Et quand vous êtes arrivé en janvier, il fait chaud toute l'année, il fait beau toute l'année.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mois de l'année où j'ai pas pu aller me baigner.
Oh là là.
Donc après, on s'habitue et en août, quand il fait 18 degrés, on a les écharpes et
on a froid.
C'est ça. Non mais là tu rigoles, mais même à Sydney, je suis en pull, etc. Il fait 15 ans.
Là en ce moment?
Ouais, là tout de suite, il me semble que là 8h30 à 9h du matin, on arrive vers l'hiver, donc il commence à faire froid.
Ah oui, c'est vrai, t'es vraiment à l'opposé, toi, t'arrives vers l'hiver, on arrive vers l'été.
Oh, ouais, il fait 15 degrés, ou 17 de maximum aujourd'hui, ouais, 17 de maximum, je vais être en pull avec les écharpes, pas l'écharpe, mais les chaussettes, le pull, etc., et sous le plaid.
Oh, purée.
On s'habitue différemment. Et la Sunshine Coast, il fait encore plus chaud, mais c'est une région qui est absolument magnifique. C'était très différent, c'est vrai, d'arriver en Australie, et j'arrivais donc de Lyon, qui est quand même relativement une grande ville en France, et d'arriver dans cette petite ville, avec la vie un peu plus régionale en Australie, où c'est vrai qu'on prend la voiture pour aller partout, donc c'était un rythme de vie complètement différent, mais c'était génial, quoi. À midi, j'allais me baigner, parce que oui, on était en effet à 100 mètres de la plage, comme sur cette carte que mon boss en France m'avait montrée.
Wow.
Donc, en midi, une demi-heure de pause, très bien, j'allais me baigner un quart d'heure, et puis je reviens, on arrivait au bureau, on regardait sur la rampe d'escalier, il y a les serviettes et les maillots de bain de tout le staff qui allaient se baigner à midi. c'est
incroyable, quand tu racontes ça, t'as l'impression d'être dans un film.
C'est ça. En short, en tongs, c'est...
Ah oui, du coup,
le... de mettre un pantalon et des chaussures correctes.
C'est l'image que on a des fois.
Très de... relax.
Voilà. Ce que j'allais te dire. T'allais bosser pas en tailleur et en chemisier, tu pouvais être tranquille.
Ah non, j'étais en short, en débardeur et en tongs quand j'avais des chaussures, quoi. C'est, je me souviens un jour où mon boss, à un moment, qui était même le CEO de la boîte, regarde, il fait, mais où j'ai mis mes chaussures? Eh, je trouve que c'est pas un truc qu'on entend tous les jours. Parce que on est tout le temps pieds nus. J'ai des collègues que j'ai pas vus avec des chaussures jamais en 2 ans.
C'est fou.
C'est fou. Non, ils portent pas de chaussures. Parce que bon, on est juste à côté de la plage, il y a pas besoin, et c'est vrai que c'était un rythme de vie qui était complètement paradisiaque. Mais après 2 ans sur la Sunshine Coast,
t'avais fait le tour.
On a un peu fait le tour, et je pense que c'est très très bien quand on a une famille, quand y a beaucoup de retraités qui y retournent parce que c'est un rythme de vie qui convient très bien. Par contre, ça, quand on est relativement jeune, en couple, sans enfant, il n'y a pas grand chose à faire en dehors de la plage et du surf club pour aller dîner, quoi. C'est assez limité.
Parce que Brisbane, même pour c'est sortir avec les copains.
Non, mais j'étais pas à Brisbane, j'étais à 2 heures au nord de Brisbane.
Ah oui, t'étais à 2 heures au nord.
1h30 au nord, donc dans cette région régionale. Et donc, c'est là qu'on a déménagé à Brisbane, justement.
D'accord.
Donc, Brisbane, qui est la 3e plus grande ville du pays, donc complètement différent. Donc là, on a retrouvé la ville, on a retrouvé, pouvoir sortir. Mais toujours avec le rythme de vie Queensland, très relax.
Mais du coup, tu as dû quitter la boîte dans laquelle tu étais?
J'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais. J'ai trouvé un nouveau job dans une autre boîte à Brisbane, où je suis pas restée très longtemps dans cette boîte-là. Je suis restée à peine 6 mois. Ça s'est pas très bien passé. Pour des raisons complètement par rapport à la boîte, il n'y avait pas de question de culture ou quoi que ce soit, c'était vraiment cette boîte en question, c'était pas...
Oui, ça arrive. Hein.
J'étais pas ce qu'ils cherchaient et ils n'étaient pas ce que je recherchais non plus.
D'accord. Donc, la compréhension entre les deux parties.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, c'est vrai que moi, à chaque fois, j'avais toujours, de fait que mon visa soit sponsorisé, à chaque fois que je changeais de boîte, il fallait que je trouve une boîte qui reprenne mon visa.
C'est ça, j'avais
pensé relativement comme question. Compliqué.
C'est du coup ton visa premier dépendait de ta première boîte et il faut
que je trouve une boîte qui le reprenne.
Ah ouais.
C'est ça, parce que c'est un visa qui dure 4 ans. Alors ça dépend, c'est vrai que quand je suis partie de la Sunshine Coast, ça met des bâtons dans les roues clairement, parce que moi j'envoyais mon CV partout en cherchant quand je voulais partir de la Sunshine et à chaque fois le nombre d'appels, j'avais peut-être 2 appels par jour et à chaque fois c'était ah vous êtes un 450, ah vous êtes pas résidente, ah ben désolé on peut rien faire. Ou c'est dommage vraiment que vous n'ayez pas la résidence parce que vraiment votre profil, je ne l'ai pas.
Et la résidence, comment on fait pour l'obtenir?
Alors, il y a plusieurs voies. Pour moi, il fallait en gros que je passe 2 ans dans la même boîte, au même poste.
D'accord. Ce que tu avais fait au final?
Je suis restée un peu moins. Je suis partie genre 2 mois avant mes 2 ans se finissent. Mais le truc, c'était aussi que j'avais des soucis dans ma boîte et je me voyais pas rester. Parce que je sais que la résidence peut prendre facilement 1 an pour être validée et je me voyais pas rester encore 1 an, plus d'un an dans la même boîte.
Ah oui, parce que du coup, au moment où tu la lances, tu dois encore rester le temps que ça soit terminé, d'accord.
Ouais, ça prend du temps, c'est ça. Et je voulais pas ça, je voulais pas cette idée, donc j'ai quand même cherché à partir. Donc j'ai retrouvé cette boîte et au bout de 6 mois, donc quand ça s'est terminé et pas très bien terminé, en gros, c'est qu'ils m'ont terminé ma période d'essai même pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'était un vendredi. Alors, je m'en rappellerai toujours parce que c'était le vendredi 1er avril. Ils ont changé le sens de l'occasion. Et j'étais convoquée dans une meeting room où ils me disent, on a décidé que ça allait pas être possible, tu prends tes affaires et puis tu pars, quoi. Là, tout de suite. Donc, raccompagner à ton bureau et puis tu mets tes affaires dans un sac ou dans un carton, là, comme dans les séries où ils mettent tout dans la carton. Voilà, pareil. Pareil. Et puis c'est fini, quoi. Bye bye.
Mais t'as pas été prévenu en avance? Il y a pas un mail pour te dire tu vas falloir que tu te retournes, que tu trouves un autre job?
J'étais en réunion en train de prévoir des trucs pour la fois d'avant. Je sors de réunion, mon boss me dit est-ce que tu peux me suivre? Et là j'arrive et je m'assois et il y a les deux boss et la RH autour de la table et voilà, c'est tout, quoi.
C'est assez froid comme moment,
ouais.
Où ça reste C'est professionnel c'était...
Non, c'était assez froid, mais aussi, je pense, bon, ça fait partie de c'était cette boîte en particulier, ça faisait partie des soucis que j'avais avec cette boîte.
D'accord.
C'était vraiment, j'ai pas vu ça ailleurs, c'était le processus qu'ils ont suivi était pas cool, quoi.
Ok.
Ça se fait pas vraiment.
Et puis, j'imagine qu'après la première boîte où ton boss était hyper relax, hyper cool, ça devait vraiment faire un gros changement.
Ah ouais, ça s'était pas très bien passé. Là-dedans.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit « je vais rentrer en France » ou toujours pas ? Tu ne voyais quand même pas rentrer ?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais là, la différence, c'est que j'avais la pression parce que j'avais plus de boulot et j'avais 3 mois pour retrouver un boulot, sinon mon visa expirait et c'était au revoir.
Et toujours un boulot dans une boîte qui
retrouve
ton visa.
Voilà, wow. Il fallait que j'ai 3 mois.
Grosse pression.
Ouais. Absolument, c'est, je me disais si j'ai 3 mois pour trouver, et il ne va pas falloir faire la fine bouche parce que... Et en même temps, je dis, il ne faut pas faire la fine bouche, mais je venais de me prendre un sacré coup à l'ego, et il y avait plein de problèmes dans cette boîte. Je bossais 16 heures par jour, et mine de rien, ils trouvaient que je bossais pas assez. Enfin, j'étais à la limite du burn-out, j'avais quand même une expérience très négative. Donc, je voulais pas non plus reprendre n'importe quoi et retourner dans cette spirale complètement infernale où j'étais vraiment pas bien, quoi. Au niveau de ma santé mentale, c'était une catastrophe. Donc,
comment tu as réussi à rebondir?
Je dirais en partie un gros coup de chance. Je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Alors, certes, voilà, il y a la chance qu'on se crée aussi, mais je pense que honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance au niveau des timings dans ma vie. J'ai postulé un job et en plus complètement à l'arrache sans me faire exprès, j'ai postulé 2 fois sur 2 sites différents à la même offre en oubliant parce que j'avais fait vachement bien.
Ils ont dû dire celle-ci, elle a vraiment envie de venir.
c'est ça. Et c'est passé au final, j'ai retrouvé un boulot en 2 semaines.
Ah ouais. Wow.
Ouais, ça a été hyper rapide. En 2 semaines, j'avais un boulot, donc dans une boîte.
Mais un boulot qui te plaisait ou comme tu dis, faire la fine bouche?
Qui me plaisait. J'avais accepté de descendre d'un niveau. Donc j'étais à la boîte d'avant, j'étais directrice marketing et là je retombais en marketing manager, donc un niveau en dessous. Je prenais une différence de salaire aussi. Je réduisais mon salaire, mais je me disais c'est pas grave. Je préfère prendre un salaire. J'avais une autre offre au même moment. J'ai décroché 2 boulots en même temps. Pour un autre boulot qui était aussi plus élevé avec un plus gros salaire, mais j'ai préféré prendre l'autre en disant je me sens mieux, j'ai l'impression que la culture de l'entreprise est bien meilleure et c'est pas grave, si je reste longtemps, ben je bosserai et puis je re-augmenterai, mais je préfère prendre le temps de me reconstruire en fait.
Ouais. Et je me suis vraiment mis à mal
complètement.
L'autre boîte.
Complètement. Et même dans cette boîte-là, la nouvelle boîte, pendant 6 mois, tout le long de ma période d'essai, j'étais en stress en fait, même si tout se passait extrêmement bien. J'étais en stress parce que le mauvais souvenir de la boîte précédente, mais la culture était extrêmement différente. C'était une boîte qui fait du fundraising, donc en gros c'est l'équivalent des cagnottes mais pour les charités. Donc je crée ma page et je dis aux gens c'est un GoFundMe mais ça va directement aux charités et pas à une personne directement, en gros. Donc c'est voilà le fait de bosser avec des charités, de bosser dans ce milieu caritatif, ça crée quand même une certaine culture dans la boîte, qui était beaucoup plus positive. Et donc j'ai commencé là-bas et je suis restée. Donc au final je suis restée 3 ans et demi dans cette boîte, qui s'est très 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 bien passée. J'ai beaucoup aimé. Donc j'étais à Brisbane et tout se passait très bien jusqu'en juin 2018, donc je suis arrivée en juin 2016. Et 2 ans plus tard, il y a eu une autre grosse différence dans ma vie, c'est que je me suis séparée de mon mari à ce moment-là, qui était français lui aussi. Donc évidemment, pour tous les gens qui sont passés par là, c'est pas un moment évident, ça reste très compliqué.
Surtout loin de ta famille, c'est pas toujours facile à vivre.
C'est ça, c'est jamais facile, une mariage ou pas, une relation longue durée qui se termine, c'est jamais un moment agréable, mais c'est vrai que quand en plus on est à l'autre bout du monde, ça rend les choses un peu plus compliquées, quoi.
Cette période-là de ta vie, tu avais des amis australiens, tu avais réussi à te reconstruire un cercle amical, et puis souvent les amis deviennent un peu notre famille quand on est expatrié.
Oui, j'avais c'est ça, absolument. J'avais des amis australiens, essentiellement par mon boulot, donc ce nouveau boulot à Brisbane qui se passait très bien et où je m'entendais extrêmement bien avec tous mes collègues. Je me rappelle d'une fois, donc C'était dans les premiers jours après que j'ai annoncé la séparation au boulot. Donc, juste après, je l'ai annoncé direct à mon boss parce qu'en gros, je lui ai dit « je vais être une catastrophe là pendant les quelques prochains jours, ça va pas être simple. » Donc, je te dis pourquoi. Et je me souviens que ce jour-là, lui et une des filles de mon équipe sont pointées à midi avec un petit sac où il y avait une bouteille de rouge, et un morceau de bleu et une mini baguette.
Oh là là, c'est adorable.
En care package. J'ai vu ça, j'ai fondu en larmes quand j'ai vu ça. Oh là là, c'était juste tellement gentil, tellement intentionné. Voilà. Mais c'était cette culture dans la boîte. Et évidemment, je suis très très proche d'eux. Je suis rentrée en France aussi pendant 2 semaines parce que j'avais besoin de retrouver un peu ma famille à ce moment-là. Et quand j'ai été voir mon boss et pour lui dire, écoute, est-ce que je peux partir de France, deux semaines en France? Je bosserai à distance, c'est pas grave, ça me dérange pas de commencer à bosser à 6 heures le matin, ce qui fait, comme 14 heures en Australie. Comme ça, j'ai tout votre après-midi où on peut avoir des réunions, etc. Et puis après, moi, je finis ma journée à genre 15 heures pour moi, quoi, en commençant plus tôt et en finissant plus tôt. Et ils m'ont dit direct, pas de souci. Et il avait un bureau à Londres avec lequel on bossait beaucoup à ce moment-là. Et je me souviens que ma boss, quand je lui ai annoncé, elle fait non, 2 semaines, c'est pas assez, tu fais une semaine en France, après tu vas passer une semaine dans le bureau de Londres, et puis tu refais une semaine en France, parce que t'as bien besoin de 3 semaines.
Wow.
Ok.
Ta gentillesse.
C'est ça. Et en plus, bah, évidemment, la semaine où j'étais à Londres, ils payaient tout, l'hébergement, etc., quoi. Donc, non, c'était quand même une boîte assez exceptionnelle, où je suis toujours énormément en contact avec eux, d'ailleurs, ils sont adorables.
D'accord.
Mais j'ai eu la chance d'avoir ce cercle autour de moi à ce moment-là. J'ai aussi 2 amis français avec qui j'étais très proche. Et c'est marrant parce que c'est des 2 amis avec qui j'étais à l'université à Lyon.
C'est vrai? Fait ce master. Tu les as retrouvés en Australie?
Qui habite à Brisbane maintenant.
Ah là là, génial!
C'est ça. Donc, ça s'est fait complètement par hasard. Mais il se trouve qu'ils sont arrivés, à Brisbane, peut-être un an. Ils sont arrivés en Australie un an après moi, je crois, mais à Brisbane, on est arrivés quasiment en même temps, je crois. Donc j'avais la chance d'avoir du monde autour, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et direct, je me souviens que mon père surtout m'a posé la question. Mais tu rentres en France ou parce que pour lui, bah, j'étais toute seule maintenant. J'avais plus mon mari avec moi, donc bah, il était assez inquiet pour moi. Mais moi, même pas une seule seconde, je me suis posé la question.
Tu l'as envisagé?
Non, ouais. Pas du tout. Pour moi, c'était clairement, je reste en Australie.
J'imagine qu'après avoir vécu tout ce que tu as vécu en Australie, c'est dur de rentrer en France et puis de repartir à une petite vie un peu pépère, quoi.
Ça faisait plus de 4 ans que j'étais là, quoi.
Il n'y a pas les mêmes boîtes. Ouais.
Ça faisait 4 ans et demi que j'étais en Australie déjà, donc c'était pas possible. Et aussi, ce qui s'était passé, c'est que donc après 2 ans dans ma boîte au même poste avec mon ex, on venait juste de lancer notre visa de résidence permanente. Et donc là, c'était compliqué.
Ah oui.
Voilà.
En tant que couple.
Voilà. Donc c'était compliqué parce que c'était mon visa et lui était rattaché à mon visa parce que c'était moi qui étais sponsorisée. Parce que la résidence passait aussi par le fait que ma boîte me sponsorisait pour la résidence.
D'accord.
En gros, c'est comme si ma boîte disait ben voilà, cette personne qu'on a dit qu'on avait besoin pour 2 ans, en fait, on aimerait bien la garder un peu plus longtemps. Et donc on voudrait la garder définitivement, et voilà le visa dont on a besoin. C'est donc une résidence sponsorisée encore. Et donc, on avait fait la demande, le visa était posé, mais ça peut prendre facilement 1 an avant d'être approuvé. Alors, je crois qu'en temps d'attente, l'estimation, c'était à peu près 1 an. Donc, je me dis, comment faire? Parce que je voulais pas déclarer au gouvernement, je voulais pas que le gouvernement sache que j'étais plus avec mon ex, parce que moi, je risquais rien, mais lui, il risquait de se faire envoyer en France, et je pouvais pas lui faire ça.
Enfin, Manu Militari?
Ouais, je pouvais pas lui faire ça. C'est moi, ma vie est en Australie, mais lui aussi.
Ouais.
Au final, enfin, c'était pas juste, donc je voulais vraiment pas que ça lui arrive. J'ai pas, par exemple, j'ai pas recommencé à utiliser mon jeune fille, je suis gardée avec mon nom d'époux, j'ai bien fait gaffe que partout, visuellement, ça se voyait pas, il y avait rien qui annonçait qu'on était plus ensemble, parce que, je voulais pas que, ça se voit, quoi, parce que c'était un gros risque pour lui. Et puis après quelques mois, ça devenait aussi un gros risque pour moi parce que ça pouvait dire que j'avais menti en quelque sorte.
C'est mais... ça. Donc après, il faut vraiment le cacher pour tout le
c'est
monde.
C'est ça. Mais ce qui est... alors que bon, ce qui est... je trouve ça un peu injuste au final, parce que bon, nos vies, on a la condition en gros de la résidence, c'est que tu dis que ta vie est en Australie et que c'est là que tu veux rester, etc. Ce qui était toujours le cas pour nous deux dans tous les cas.
Bien sûr, que tu sois en couple ou non.
C'est donc, ça. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai retrouvé des colocs. J'ai déménagé en début août avec deux colocs australiennes.
Toujours à Brisbane.
Toujours à Brisbane, parce que j'ai toujours mon boulot, etc. Et là, ce que ça a changé, c'est vrai que au début, j'étais arrivée en Australie, je bossais en anglais, etc. Mais à la maison, on parlait quand même tout le temps en français, parce que on était un couple français. Et on avait nos habitudes françaises. On mangeait français, on regardait de temps en temps des émissions françaises en replay, etc. Donc, on avait toujours cette connexion. On vivait quand même très français. Voilà. Et j'ai commencé à voir la différence, déjà, quand j'ai déménagé avec mes colocs, et que du coup, j'étais avec deux Australiennes. Et mine de rien, ça, c'est vrai que ça change, parce que j'étais en anglais en permanence. Donc, j'avais la différence d'avant où, mine de rien, on se rend pas bien compte. Et ça reste très subtil quand on est là depuis des années. Mais quand on est constamment en anglais, le cerveau travaille un peu plus. J'ai toujours l'impression qu'on est un tout petit peu plus fatigué.
Ouais.
Parce que ça demande ce petit effort supplémentaire qui, au bout d'un moment, se fait de moins en moins visible, mais qui est toujours là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que parler moins en français, ça demandait un peu plus d'effort d'être toujours en anglais. Donc j'avais toujours mes copines en France avec qui je parlais sur WhatsApp constamment dans la soirée. Mais j'étais tout le temps en anglais au bureau, à la maison. Donc ça a changé un peu.
Là où ton cerveau au départ switch du français à l'anglais et te demande de l'adaptation, là c'était vraiment l'inverse. Il fallait vraiment que tu te remettes au français.
C'est ça, complètement.
D'accord.
Et c'est vrai que j'ai toujours ces moments parfois où j'ai remarqué maintenant que dans ma tête, ça fait un peu tout ce qui est connu, familier, mon cerveau l'associe au français. Et tout ce qui est nouveau, mon cerveau l'associe en anglais un peu. Donc quand je vais parler, parfois, je suis en réunion avec une collègue avec laquelle je travaille tous les jours et quelqu'un d'extérieur, donc je parle en anglais, tout va bien. Et quand cette personne extérieure part, que je me retrouve dans une situation familière, de temps en temps, je re-switch en français, alors que ma collègue est australienne et comprend rien à ce que je raconte. Et c'est très étrange, et je fais ça avec mon copain aussi maintenant, où de temps en temps, je vais lui parler en français et regarder, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es au courant que je parle pas français ? Et je me rends même pas compte de quelle langue je parle.
Ah ouais, c'est ça devient comme ça et
c'est ça. Mais oui, c'est très étrange de pas se rendre compte de quelle langue on parle, en quelle langue on est en train de parler vraiment. Donc voilà, j'étais avec mes colocs, j'ai vécu avec elles pendant un moment, j'ai rencontré quelqu'un quelques mois après la séparation. Et avant même qu'on soit, on sait maintenant, c'est la discussion de est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on est officiel, toutes ces choses-là que je connaissais pas 10 ans avant quand je me suis mis en couple avant.
Parce que tu penses que ça c'est australien ?
J'ai l'impression que c'est vachement nouveau. Non, je pense que c'est plutôt une question de génération, de temps. Je pense qu'il y a 10 ans, il y avait pas toutes les apps, etc. Et on n'avait pas la même vision des relations.
Parce que j'ai déjà entendu ça ici pour les dates aux États-Unis, c'est ouais. 1, 2, 3, 4 dates, et puis au bout du quatrième, là, on peut dire, bon, ok, maintenant,
ouais,
est-ce qu'on va être...
Mais il faut voir la conversation, presque.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être officiel ? Est-ce qu'on va être... On continue à voir quelqu'un d'autre ? Est-ce que... voilà.
C'est ça, est-ce qu'on est exclusif ?
Et donc, du coup, tu t'es dit, bon, là, on a cette discussion-là, ou c'était avant d'avoir cette discussion-là ?
Alors, même pas, c'était avant d'avoir cette discussion-là avec, il m'annonce que, donc, on se voyait de manière casual, on va dire.
D'accord.
Mmh. Et il me dit, bon, par contre, faut que je te dise un truc, j'ai trouvé un nouveau boulot, c'est à Sydney. Et je commence en décembre.
Et là, c'est l'autre bout du pays, en fait.
C'est ça. On était fin septembre, je crois, à ce moment-là. Alors, c'est le bout du pays, non, c'est reste sur la côte est. C'est 1 heure d'avion, c'est 12 heures de route en voiture, 1 heure d'avion. C'est 1000 bornes, ouais. Voilà.
Bon. D'accord.
Et il dit, je pars à Sydney, je fais bon. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, écoute, c'était sympa pendant que ça durait. On a encore 2 mois avant que tu partes à Sydney, on va continuer à se voir, mais après, bonne route, quoi. Si je passe à Sydney, je te ferai...
Chacun sa vie, quoi.
Ça, si je passe à Sydney, je te dirai coucou,
quoi. C'est drôle. C'était pas encore...
Du tout. Sauf que dans les 2 mois qui ont suivi, on s'est attaché, et puis au final, on fait quoi?
Ah ouais.
Au moment où il a dû partir, on voyait plus personne, ni l'un ni l'autre. Il est dans la même situation que moi, il s'était séparé aussi de son ex-femme à peu près en même temps que moi, étrangement, en juin pour lui aussi. Donc on était tous les deux dans une situation où on voulait pas vraiment, on ne veut pas se relancer dans quelque chose tout de suite ou trop sérieux, quoi que ce soit. Donc bon, c'était pas évident de savoir ce qu'allait se passer. Mm-hmm. Donc à la limite, le fait qu'il partait à Sydney, on disait bon, on va voir ce que ça donne. Moi, j'avais de la chance. Mon boulot a aussi un bureau à Sydney. Donc j'ai parlé à mon boss et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut s'arranger? Et je fais 2 semaines au bureau de Brisbane, 1 semaine au bureau de Sydney, 2 semaines à Brisbane, 1 semaine à Sydney.
Et c'était okay. Faisable?
C'est ça, c'était faisable, du moins que c'était à mes frais.
Oh.
Donc, il payait pas l'avion ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où c'était à mes frais, il n'y a pas de souci.
Oh, c'est quand même un sacré budget, j'imagine.
Ça représentait un budget, c'était à peu près $300 l'aller-retour à chaque fois. Ouais. Plus les Uber pour aller à l'aéroport, revenir, etc. Donc ça faisait un budget, mais je vivais dans une coloc où je payais pas énormément de loyer, j'avais un bon salaire, donc c'était quelque chose que j'étais prête à faire. Et d'un côté, c'était pas plus mal parce que ça permettait d'y aller doucement, quoi, de pas se relancer dans quelque chose trop vite.
Oui. Ouais, de voir si la semaine, après 1 semaine avec lui, 2 semaines à Brisbane, est-ce qu'il te manquait, comment tu le vivais.
C'est ça, puis 2 semaines chacun dans notre temps un peu.
Ouais, ouais.
Avoir notre temps chacun de notre côté, voir nos potes, faire nos trucs, donc c'était pas plus mal. Donc on a fait ça pendant... Et puis je voulais pas déménager aussi du fait que ma résidence était toujours pas approuvée, donc je voulais pas déménager d'état parce que je voulais pas que ce soit grillé, que je sois pas dans le même état que mon ex, et là, l'immigration aurait pu faire...
Ouais, c'est bizarre.
Excusez-nous, madame. Comment ça se passe? Donc je savais que rien ne serait possible tant que ma résidence ne serait pas approuvée. Ce qui a été fait en mars.
Donc un peu plus d'un an après avoir fait la demande.
Un peu moins d'un an, 9 mois.
Un peu moins d'un an, d'accord.
9 mois, de juin à mars, ouais, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord.
Et donc la résidence approuvée, gros poids qui s'enlève des épaules, parce que ça veut dire que maintenant, si je perds mon boulot, j'ai plus de pression de retrouver quoi que ce soit.
Il y a une pression financière, rester, mais voilà, t'as pas à devoir rentrer en France comme ça.
Oui, c'est ça. L'Australie, c'est chez moi et je peux rester. Il y a pas de souci, je peux rester indéfiniment ici. D'accord. J'aurai pas de problème. Donc c'était un gros point en moins et aussi pour moi, ça pouvait dire que je pouvais rendre ma séparation officielle. Mm-hmm. Ce qui mine de rien, après, pareil, à peu près 9 mois, commence à devenir un peu nécessaire pour moi pour avancer aussi, quoi.
Oui, c'est ça. C'est que c'est pesant aussi. Il reste toujours cette attache.
Ouais, c'est ça. Donc résidence approuvée et là à partir de ce moment-là j'ai commencé à parler à mon boss et je lui ai dit écoute, je crois que c'est un mois plus tard en avril j'ai fait voilà ça fait 4 mois maintenant que je fais 2 semaines 1 semaine ça commence à être fatigant et c'est vrai que et des fois je me réveillais je savais plus où j'étais parce qu'en plus de ça on ajoutait les déplacements professionnels parfois à Melbourne etc donc c'est vrai qu'il y a des fois je savais plus vraiment où j'habitais
qui se rajoutait en plus de ces voies de Brisbane et de Sydney ouais.
À tout ça, ouais. C'est ça. J'étais constamment dans les avions, j'avais l'impression. Et c'est vrai que quand j'étais à Sydney, j'étais pas, même si j'avais mes affaires partout, j'étais pas chez moi, j'étais chez lui. Et quand j'étais à Brisbane, du fait que j'étais en coloc.
C'était pas entièrement chez toi.
C'est ça. Tu peux pas faire complètement ce que tu veux non plus. Donc j'avais un peu cette impression d'avoir nulle part chez moi. Et ça commençait à me peser, ça commençait à être compliqué aussi. Au niveau mental, au niveau fatigue mentale. Donc j'ai eu la discussion avec mon boss en disant est-ce que je peux bouger dans le bureau de ciné complètement. Et on a discuté avec la RH etc. Et ils m'ont dit il y a pas de souci, tu bouges quand en gros.
Ah ouais.
Donc le temps de tout mettre en place, juin l'année dernière, donc ça va faire quasiment un an maintenant, j'ai déménagé à Sydney et donc je suis là depuis 11 mois. Quasiment jour pour jour, d'ailleurs, on voit.
C'est vraiment une boîte hyper, hyper ouverte d'esprit, quand même.
Hyper flexible, ouais. Ça a été très, très, très valide là-dessus. Je pense que c'est une boîte qui bosse dans le logiciel et donc on peut bosser à distance facilement. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est assez valide pour le milieu tech, au moins en Australie, où c'est des boîtes qui sont en général beaucoup plus flexibles, beaucoup plus modernes.
D'accord. En fait, du moment que tu as une connexion à Internet, tu peux bosser de la maison.
C'est ça. C'est ça. Comme je vois, quand j'ai pu bosser de France, il n'y a pas de souci, ça s'est passé. Ils sont relativement flexibles là-dessus. J'avais des collègues qui bossaient complètement de chez eux.
D'accord.
Qui n'étaient jamais au bureau. Donc, bon, c'était pas.
Ce qui, justement, me fait rebondir, là, on est en pleine période de pandémie mondiale, où on parle. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe en Australie?
Alors, différent.
Parce qu'en plus, il y a eu les feux.
Ouais. Alors, déjà, je suis plus dans la même boîte. J'ai changé en novembre, juste parce que j'avais plus de développement professionnel un peu possible. J'avais un peu atteint le maximum. Donc, j'ai changé de boîte pour passer dans une boîte qui est pas du tout dans le même domaine et qui était, c'était compliqué pour rien que l'idée de bosser un jour à la maison, parfois, de temps en temps, pour faire quelque chose. Déjà, c'était un peu compliqué.
C'est vrai, ils sont pas du tout dans le télétravail.
Non, c'est une boîte qui a quoi, 60 ans, qui bosse, c'est de la location de meubles pour les événements, pour le home staging, tout ça. Donc, domaine complètement différent et une boîte beaucoup plus traditionnelle. Et donc, quand le confinement a commencé, donc c'était en mars pour nous, mi-mars à peu près.
Parce que vous aussi, vous avez été confiné en Australie?
C'est ça. Donc, on a commencé mi-mars à voir les cas qui commençaient à monter. On en était à peu près au maximum. On a eu 500 cas par jour au maximum. Donc, on reste quand même des très petits joueurs. Mm-hmm. Parce que le gouvernement n'a pas attendu et direct nous a dit, bon, bah, écoutez, les gars, vous restez chez vous. Et ce qui est compliqué en Australie, c'est que c'est une division par État aussi. Donc, chaque État, il y avait les recommandations fédérales, mais après, chaque État pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Il y a des États qui étaient plus stricts que d'autres. Moi, à Sydney, on était l'État qui avait le plus de cas. Parce que Sydney, grosse ville, parce qu'il y a énormément de gens, de touristes, de migrants, de tout. Donc, on avait plus de cas et ça augmentait. Et c'est vrai que les gens ont presque pris les devants sur le gouvernement ici.
Ah oui, d'accord.
Donc, on n'a pas attendu, en fait, que le gouvernement nous dise « faites ci ou faites ça ». On en était encore aux limitations de pas d'événements de plus de 500 personnes quand ma boîte a dit « restez chez vous ».
C'était une grosse avancée, alors, pour elle.
C'est ça. C'est vrai qu'ils se disaient « nous, si on a un de nos livreurs qui prend le truc, on ferme la boîte, quoi ». Donc,
ouais.
C'était beaucoup trop risqué. Donc ça, c'était mi-mars et on est désormais fin mai. Et je suis toujours chez moi, à bosser de chez moi.
Ça va rouvrir.
Ça commence à rouvrir. Là, encore une fois, ça dépend des États. Je sais que le tourisme reprend dans notre État dans un mois. Et quand je dis tourisme, c'est-à-dire que nous, on peut, à l'intérieur de l'État, aller dans des hôtels ou des restaurants, etc. Ça reprend 1er juin, donc dans 2 semaines. Mais par exemple, les frontières entre États avec le Queensland, donc là où est Brisbane, sont toujours fermées. Donc mon copain, sa famille est à Brisbane, on peut pas aller voir sa famille, par exemple, on ne sait pas quand est-ce que ça va être possible.
D'accord.
Alors qu'on est dans le même pays, quoi. Donc ça paraît un peu dingue, quoi. Mais il parle de septembre pour réouvrir les frontières de Queensland.
D'un État à l'autre. D'accord.
C'est ça. Donc voilà, je bosse de la maison, mon copain est aussi à la maison, donc ça se passe bien.
Du coup, vous avez emménagé ensemble ?
On a emménagé ensemble, alors quand on a commencé, j'ai emménagé dans son appart. Alors, il faut savoir que Sydney, c'est une ville qui est très chère au niveau du loyer.
Ouais.
Et donc, il avait un appart qui était un studio.
Wow.
Vraiment un studio, donc il n'y avait même pas une chambre à part, donc c'était petit. Donc, on était tous les deux dans notre petite boîte. Et heureusement, en novembre, on a déménagé dans un appart avec 2 chambres, un balcon, ce qui, je pense, a été crucial en cette période de confinement. On savait pas que ça allait arriver, mais mais c'était très, très important, parce que je sais pas si on aurait tenu très longtemps dans un studio quand on doit être tous les deux en réunion ou quoi que ce soit à bosser de chez nous, quoi. Ça aurait été compliqué.
Bah, c'est ça. Mais chacun qui parle au téléphone ou en Skype.
On aurait dû en avoir un sur les toilettes ou je sais pas parce que ça aurait pas été possible. Mais c'est vrai qu'on a eu ça et tu mentionnais juste avant les feux.
Oui.
Et c'est vrai qu'à Sydney, ça a été compliqué parce que donc nous, évidemment, dans Sydney, ça brûle pas, hein, dans Sydney, c'était quand même en régional.
Non, bien sûr, mais c'était pas très très bien quand même.
Mais la fumée, c'était dingue. On a un balcon, on n'a pas pu l'utiliser pendant 2 mois parce que il y avait trop de fumée dehors.
C'était quand d'ailleurs ces feux? C'était début de l'année, non?
Ça commence. Alors, début de l'année, c'est quand le monde s'est un peu réveillé, mais ça commence en novembre. Vraiment être intense. Ça,
Vous avez, en fait, c'est vraiment cumulé.
Ça s'est arrêté. Il me semble que ça commence à cramer bien plus tôt, mais ça a été intense à partir de novembre. Et la fumée, c'est-à-dire que moi, j'étais au bureau parfois et on regardait par la fenêtre dehors, c'était orange. J'ai des photos, c'est orange dehors. On pouvait pas respirer. Et j'ai des collègues qui bossaient de chez eux parce qu'ils font de l'asthme, mais qui ne pouvaient pas venir au bureau et être dehors. C'était pas possible. On se levait tous les matins, il y avait une couche de cendre sur la table, sur le balcon.
Oh là là.
C'est de la cendre partout. Ça sentait la fumée en permanence pendant 2 mois. Quoi.
L'État australien, comment il a géré ça? Est-ce qu'il vous a fourni des moyens de protection?
Rien. Non, ils ont rien géré. Le Premier ministre s'est pris une flambée, c'est peut-être pas le moyen.
Jeu de mots.
Pas du tout l'intention de faire un jeu de mots, mais c'est pris beaucoup de critiques parce que à Noël, il est parti en vacances à Hawaï et tout le monde lui a dit, il y a 2-3 priorités à la maison, là, c'est peut-être pas le moment de partir à Hawaï.
C'est ça.
Donc il s'en est pris un peu dans la tronche, mais
Ça se comprend, pour le coup, c'est vrai que...
Ouais, mais c'était fatigant mentalement parce que c'est toujours cette pression. On allumait la télé et c'était le feu et la destruction et les animaux et les gens et c'est les morts. Enfin,
Il y a eu énormément de personnes touchées, autres que les animaux.
Il y a eu des morts, mais aussi énormément de gens qui ont simplement perdu leur maison, qui ont perdu leur boulot, Ça a été dramatique pour le tourisme parce que l'Australie c'est quand même un pays qui compte beaucoup sur le tourisme. Alors quand en plus on se prend le Covid là à la suite, c'est compliqué.
On a du mal à se dire comment s'en remettre.
On sortait juste des feux. Les feux ça s'est terminé fin janvier et donc début mars, boum.
Ça a dû être compliqué, ouais.
Problème suivant, catastrophe suivante. Enfin, mais bon, au final, le Covid, on s'en sort relativement bien. On a eu, je crois qu'on a eu la 100e mort la semaine dernière. Donc, ce qui reste, c'est toujours trop dans tous les cas. Mais 100 morts, c'est rien. Et c'est quasiment que des personnes de 70, 80, 90
ans. Oui, mais c'est peu par rapport à...
Pas que ce soit mieux, mais bon, voilà, par rapport au reste du monde, ça reste minime. Donc, on s'en sort bien. Et je crois qu'en termes de cas, on n'a même pas eu 7000 cas en total sur le pays. Et là, on est à même pas 10 cas par jour en général. Mais le gouvernement reste que très, très prudent. C'est toujours, faites attention, la distanciation sociale. On a une app qu'on est censé avoir. Elle est volontaire, évidemment, mais qu'ils encouragent fortement, qui est censée nous traquer avec le Bluetooth. Et si on rentre en contact avec quelqu'un qui plus tard se signale comme ayant eu le Covid, ça envoie une alerte où le gouvernement peut rentrer en contact.
À ceux qui l'ont côtoyé.
Voilà, le gouvernement peut rentrer en contact avec toutes les personnes qui l'ont côtoyé pendant plus de 15 minutes, il me semble, pour se faire tester, etc. Donc, c'est pour essayer de limiter ce qu'ils appellent les community transmission, donc les cas où ils ne savent pas d'où vient la source.
D'accord.
Donc, on s'en sort bien, mais il me semble que les événements, ils vont rouvrir, ils planent de rouvrir jusqu'à 100 personnes en juillet. Mais pas plus que ça. Donc l'Australie, c'est un pays qui a énormément, qui a une culture sportive énorme. Ils sont fous de sport. Et là, le fait que les saisons de footy et de NRL soient arrêtées, c'est dramatique pour le pays. Quoi. Ils vivent autour du sport. Quoi. Donc le fait de pas pouvoir avoir de match ou quoi que ce soit, ça a été compliqué.
Ça fait une grosse.
Culturellement, ça fait un vide, ouais, pour eux. Parce qu'en plus, c'est un pays qui fait énormément de paris, et donc de paris sportifs. Donc, il disait que même les paris, maintenant, les Australiens ont tellement en manque, ils parient sur la météo. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller sur des sites de paris en ligne pour parier sur la météo, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe au niveau sportif.
Ils sont vraiment en manque.
Ah, ils sont en manque, hein, c'est compliqué. c'est très compliqué.
Du coup, tu parlais de culture, et justement, est-ce qu'il y a des différences culturelles que tu as remarquées? Avec dans les boîtes que t'as côtoyées, avec tes amis et maintenant avec ton copain.
Donc je pense que là où ça me choque le plus, c'est avec mon copain maintenant, donc à vivre ensemble, etc. Et c'est relativement subtil. En fait, c'est le fait que même on peut parler anglais parfaitement, etc. Il y a toujours ces références, notamment quand c'est des trucs qu'on faisait quand on était enfant ou des habitudes alimentaires.
Les dessins animés.
Il y a toujours des moments où je dis ah oui c'est vrai, je suis pas d'ici. Il y a toujours ces petits moments un peu et c'est vrai que niveau alimentation, c'est vrai que, voilà, on a une alimentation française qui est quand même assez spécifique et ou parfois il me regarde le fait que je mange des toasts avec du Nutella ou quoi que ce soit le matin, pour lui c'est si tu manges comme sucre quoi, c'est quoi cette dose de sucre que t'avales tous les matins?
Ah, parce qu'il mange pas comme ça le matin, c'est très
alors que bah moi ça me paraît normal. Bah non, c'est du sucré. C'est, pour nous, c'est du sucré. Pour eux, c'est du salé.
Est-ce que il y a une différence aussi sur de qualité de vie? Ils sont plus sains, enfin plus sains dans le sens plus attention à leur santé, alors la façon dont ils vivent.
Non, je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui sont très actifs, mais je dirais pas qu'ils sont plus sains. Quand même énormément de fast-food, de malbouffe.
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'ils boivent aussi? Oh mon Dieu, les Australiens, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Oh là là, ils boivent énormément.
Ils sont très sociables.
C'est ça. Ben ils sont, c'est un peu comme les Anglais où il y a cette culture d'aller au pub,
d'accord,
beaucoup, de boire de la bière, d'aller au pub. C'est de toute façon les Australiens sont des Anglais hein, d'origine.
Oui, bien sûr.
Donc c'est la culture australienne et la culture anglaise sont très
assez proches.
C'est ça. Mais c'est vrai que oui, c'est ces petits détails ou les habitudes où on dit « Ah, tu connais pas ci » ou « Tu connais pas ça » ou « T'as jamais goûté ci ». Ils ont, au niveau de la nourriture, ce qu'ils ont que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vu qu'il y a énormément d'immigration et on a accès à la nourriture de partout. Et pour eux, c'est normal. Ça peut être indien, ça peut être thaï, ça peut être d'un peu partout. Il y aura toujours ça et ils ont grandi avec cette diversité culturelle que je trouve on a moins en France parce que notre nourriture française et notre culture
elle nous suffit.
Française, voilà, c'est ça. Donc, on a moins cette diversité, alors qu'ici, c'est vrai, ils grandissent avec ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie quand même pas mal.
Et est-ce qu'il y a un plat vraiment typique australien?
Un plat, je sais pas. Il y a comment dire, c'est même pas une soupe, un truc à tartiner, ça s'appelle la Vegemite. C'est fait à partir de levure de bière et c'est atroce, mais atroce. Je pense que j'arrête pas de lui dire qu'ils ont un syndrome de Stockholm avec ce truc-là. Je vois pas d'autre explication pour le fait qu'ils l'aiment autant. Je comprends pas. Pour moi, si t'es pas né en le mangeant, c'est pas possible. En général, c'est une grosse blague qu'ils font à tous les étrangers ou même dans notre boîte quand notre boss est arrivé des US, ils font une tartine de Vegemite et ils lui font manger devant tout le monde pour avoir sa réaction parce qu'ils savent très bien quelle est la réaction, ce que ça va être. C'est que c'est atroce, ce truc. C'est
mais eux aiment ça. Eux, ils en sont fans.
Ah, c'est ça, ils ont ça le matin sans problème. Et
c'est bizarre, possible, hein.
Ce qui me choque aussi, c'est au niveau de, à l'école, c'est vrai que nous, on grandit avec la cantine. Donc, on mange bien le midi quand on est gamin. Les parents n'ont pas à se préoccuper de quoi que ce soit. Ouais. Là, on mange à la cantine. Il y a entrée, plat, dessert. Alors qu'ici, bah, c'est vrai que c'est aux parents de préparer la lunchbox. Ouais. Donc, ils grandissent. C'est vrai que leur lunch à midi, c'est des chips, quoi, ou un sandwich.
Oui, c'est pas le petit plat préparé.
Très chaud, différent.
Puis, ils ont moins de temps pour manger, c'est aussi. Ça.
C'est ça. Moi, je lui ai montré les menus de cantine française. Il me fait, mais c'est un resto 3 étoiles, c'est comment ça se passe chez vous, le self?
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont une culture où ils mangent beaucoup moins le midi. Bon, le lunch, c'est facilement juste un petit sandwich et quoi que ce soit. Et par contre, le soir, ils mangent plus et ils mangent très tôt. On commence à préparer le dîner à 5h, 5h30 pour manger à 6h, quoi, max.
Et vous aussi, toi aussi, t'as pris cette habitude-là?
C'est ça, ouais. Du coup, j'ai pris cette habitude aussi, ouais. C'est vrai, quand je parle à ma famille en France, ils me disent que je suis prête pour la maison de retraite.
Mmh, c'est vrai.
Ce qui est toujours agréable. mais c'est vrai qu'on mange très peu le midi et du coup, on mange beaucoup plus tôt le soir. Donc, c'est tous ces petits détails.
Et derrière, vous n'avez pas envie de grignoter, je ne sais pas, parce qu'en mangeant si tôt, si tu te couches tard après, tu dois avoir faim, je ne sais pas, à un moment donné.
Pas forcément, parce que je trouve que par contre, le dîner, là où en France, on va manger beaucoup le midi, et c'est vrai que le soir, on peut manger un peu plus light. Eux, c'est l'inverse. Ils mangent peu le midi, et le dîner, par contre, le soir, ils mangent bien.
D'accord.
C'est un plus gros dîner. Donc, non, pas spécialement faim derrière. Il y a aussi le fait que le dessert, pour eux, c'est un truc qui va avec le dîner, mais pas avec un truc qui va le midi. Manger un dessert le midi, c'est bizarre pour eux.
D'accord.
Quand ils m'ont dit non, le dessert c'est un truc du soir, moi je les ai regardés en mode mais bande de sauvages, le dessert c'est quand on veut.
C'est ça, la non. Petite touche sucrée.
mais qu'est-ce que vous me dites que j'ai pas le droit de manger le dessert le midi? Mais mon Dieu, je rends mon passeport, je rends mon visa et je rentre chez moi, quoi. non, pitié. Laissez-moi manger mes desserts quand je veux.
Est-ce que tu as des lieux dans Sydney, toi qui te maintenant où tu te sens vraiment c'est chez toi et tu te vois plus être ailleurs. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça dans en Australie qui te marquent?
Alors c'est pour moi pas Sydney, c'est du court terme. On s'est tous les deux dit qu'on resterait pas à Sydney long terme, donc on pense rentrer d'ici soit fin 2021, soit fin 2022, globalement, on veut rentrer à Brisbane, parce que clairement, pour moi, le Queensland, c'est chez moi.
D'accord.
Brisbane et la Sunshine Coast, surtout la Sunshine Coast, ça restera toujours là où j'ai commencé en Australie, et c'est un peu la notion de hometown. C'est de là d'où je viens en Australie, pour moi. Donc j'ai toujours ça en moi. Par contre, ouais, c'est Brisbane, ça reste clairement mon chez moi dans ma tête, et c'est là où on va rentrer dans tous les cas. Lui, toute sa famille est là-bas aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a pas mal marqué, c'est d'être avec un Australien désormais, donc à sa famille en Australie. Ça aide quand même un peu à combler ce manque d'être loin de la famille. Parce que quand j'étais avec mon ex, sa famille était aussi en France, donc on n'avait personne. Alors que là, il y a quand même sa famille, dont il est assez proche en plus. Donc, ça comble...
Qui t'a accueilli, t'as bien accueilli sa famille?
Complètement. Complètement, ils sont adorables. J'aime beaucoup sa famille. On a passé Noël avec ses parents. On est resté là-bas une semaine. Ils habitent donc en plus ses parents maintenant habitent sur la Sunshine Coast, qui était là où j'ai commencé. Donc
tu connais bien en plus l'endroit.
C'est toujours agréable au bord de la plage. Je connais la région et c'est vrai qu'ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et ils sont adorables. Donc rentrer à Brisbane et retrouver un peu cette famille et tout ça, c'est important pour nous.
J'imagine, je sais pas comment vous voyez l'avenir, mais si vous prévoyez d'avoir de fonder votre famille, c'est peut-être bien d'être avec près de la famille et
d'être proche de la famille, voilà. Donc là, on est en train de regarder pour acheter une maison à Brisbane.
Oh, super.
On avait fait une offre déjà en début de semaine, mais c'est pas passé.
Ah mince.
Mais c'est vrai que le plan, c'est d'acheter à Brisbane aussitôt que possible là, et on la mettrait en location ensuite jusqu'à
partir. Est-ce que les loyers sont moins chers qu'à Sydney?
Ah oui, complètement. Sydney, c'est comparé un peu, je dirais que c'est comparé à Paris, à Lyon peut-être.
D'accord.
En termes de différence, c'est-à-dire que Brisbane, ça reste une grosse ville, avec des loyers de grosses villes, mais beaucoup plus raisonnable que Sydney, où c'est ridicule quand même.
D'accord.
Donc les salaires sont aussi plus importants à Sydney, mais bon,
J'allais dire, il y a une différence là-dessus.
Oui, il y a une différence sur les salaires, mais pas assez, je trouve, pour justifier la différence dans le coût du loyer quand même. Et Sydney, c'est une grosse ville, c'est plus intense. Alors, c'est très bien pour y vivre pour du court terme, parce que c'est une ville qui est magnifique, la baie, l'opéra, même ce qu'il y a autour, j'adore Sydney, mais ça reste une grosse ville très intense, alors que Brisbane, il y a un peu plus de cette qualité de vie, de cette vie un peu plus relaxe, plus à l'australienne pour moi.
Slow life.
C'est ça. Donc
est-ce qu'il y a des endroits plus nature, facilement d'accès, du côté de Brisbane que du côté de Sydney, ou c'est...
Oui, parce qu'on sort plus facilement de la ville.
D'accord.
Simplement. Et acheter à Sydney, c'est pas possible. Quoi. Je regardais hier, il y a une maison 93 mètres carrés en tout, terrain compris, qui s'est vendue 1,4 million.
Oh là là!
Pour te donner une différence, là, ce qu'on regarde à Brisbane, c'est du 700 mètres carrés et ça part pour 500, 600 000.
Oh, c'est fou, c'est de la folie.
C'est 6 fois plus de terrain et c'est moins que moitié prix. Quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. L'immobilier à Sydney, c'est complètement fou.
Tu penses que c'est aussi... Sydney, c'est bien quand t'es jeune, voilà, quand tu veux faire ta carrière, que...
C'est ça. Après, je pense que il y a beaucoup de familles et ça reste très habitable.
C'est faisable quand même.
Famille, oui, complètement. Mais c'est pas, ouais, ça là, c'est pas la même qualité, je trouve. Et puis, c'est vrai que maintenant, ça paraît un peu bizarre, mais il fait plus froid à Sydney, même si, franchement, voilà, point de vue de quelqu'un qui n'est pas dans l'hémisphère sud, surtout, ça peut être bizarre. Mais la chaleur de Queensland me manque quand même.
C'est fou quand même de se dire ça.
Ah, c'est dingue. C'est vrai que là, je vois les... En France,
là, t'as 17 degrés, t'as très très froid.
Ah, je vois mes potes en France, une vague de chaleur en ce moment. Apparemment, il fait genre 25 et moi, je 25, je commence à mettre un pull quoi. Enfin, je suis en short et en t-shirt, mais voilà, je vais mettre un petit gilet quoi. Alors que ils sont là.
C'est vrai que cette année, le printemps à New York n'a pas été un printemps très. Pour l'instant, n'est pas un printemps des plus chauds par rapport à l'année dernière. Et quand on voyait qu'en France, comme tu dis, la grosse vague de chaleur, nous, on était encore à du 3, 4, 5 degrés. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, il y a une tempête de neige. Je dis, mais non,
oh, impossible. C'est ça, c'est ce que j'ai eu en Norvège, parce que j'ai quand même eu l'autre extrême.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et que j'allais en cours le matin et il faisait moins 20. Je passe devant le thermomètre, je vois moins 20. Je dis, non, je veux rentrer me coucher, c'est pas possible. Et quand l'été, il a commencé à faire 15, on était en maillot de bain dehors, alors qu'à 15, là, je suis avec mon
limite
avec
et mon ton bonnet. Pull. T'es définitivement une fille qui a besoin de chaleur et de soleil.
Ah, complètement. Mais c'est vrai que j'ai connu les deux extrêmes, quoi, pour le coup, entre la Norvège et l'Australie. Même si, en termes de... Je trouvais énormément de similarités entre les deux pays au niveau social, par contre.
Ah oui.
C'est des pays qui sont quand même assez agréables à vivre de la même manière à ce niveau-là. Mais pas du tout en termes de température, ça c'est sûr.
C'est marrant ça de se dire que deux extrêmes peuvent être similaires dans la façon de vivre.
Ouais, mais c'est des pays qui me semblent, les deux sont relativement classés assez haut en termes de qualité de vie, même l'Australie est en général assez haut placée à ce niveau-là, et je pense que c'est de là que vient
sans doute, oui. Est-ce que tu as des endroits que tu recommanderais, des personnes qui viendraient visiter l'Australie ou qui aimeraient venir pour plus longtemps, des lieux, qui te viennent à l'esprit comme ça, que tu adores?
Ouais, alors justement, je pense que beaucoup de gens, quand ils viennent en Australie, ils pensent à Sydney, à Melbourne, à Uluru, peut-être qui était avant l'Ayers Rock au milieu du désert. Mais Brisbane, par exemple, une région que les gens... sous-estime ou à laquelle ne pense pas forcément, et je pense que ça vaut le détour, surtout Brisbane pour ce qu'il y a autour. Alors, je pense que la Sunshine Coast par exemple, c'est une région qui est absolument magnifique, que je recommande à 100%. Il y a aussi l'Australia Zoo, qui est un très très grand zoo, qui était tenu par quelqu'un qui s'appelle Steve Irwin, qui est très connu dans le monde anglo-saxon, même aux US, un peu moins je pense en France, mais très célèbre, qui est décédé tué par une raie manta. Mais il a créé ce gros zoo. Il adorait la nature et les animaux, et je pense que c'est parfait pour quelqu'un qui vient en Australie pour visiter et qui veut voir tous les animaux australiens, par exemple. Voilà, il y a les
c'est plus un parc pour protéger les animaux.
Ouais, c'est magnifique. Il y a les crocodiles de 3 mètres de long. Il y a un grand enclos avec tous les kangourous, et on peut se mettre et les caresser. Ils viennent à côté, les nourrir les kangourous, on peut caresser les koalas. Donc pour quelqu'un qui vient visiter, c'est vraiment le truc à faire, je pense.
D'accord.
Moi, j'ai eu le pass annuel pendant 2 ou 3 ans, juste parce qu'à chaque fois qu'on avait quelqu'un qui venait nous voir, on les emmenait. Donc je reconnaissais un peu comme ma poche à une période, mais donc ouais, l'Australia Zoo qui est sur la Sunshine Coast, toute la région de Brisbane, parce que je pense qu'il y a assez de conseils pour tout ce qui est Sydney, Melbourne, mais je dirais que ouais, c'est une région à pas sous-estimer, le Queensland.
D'accord. Est-ce que t'as un restaurant que tu aimes, un bar que tu conseillerais d'aller?
Je sais pas ce qui est encore ouvert maintenant après
là. C'est vrai que je te pose une question un peu pointue.
Bonne question. disons que là, je dirais qu'à Brisbane, il y a un lieu qui a ouvert il y a un an. Donc il y a un grand pont à Brisbane qui s'appelle le Story Bridge, qui est au-dessus qui traverse la rivière, qui est le pont de Brisbane, un peu l'équivalent du Golden Gate à Brisbane en termes de le pont.
D'accord.
Beaucoup plus petit, bien sûr, et en dessous de ce pont, ils ont ouvert toute une zone avec des restaurants et des bars, et c'est vachement sympa parce que c'est au bord de la rivière et c'est un cadre qui est très très agréable. Il y a un peu de tout, il y a la brasserie, donc la brasserie en termes anglo-saxons, donc l'endroit avec la bière.
D'accord.
Il y a un restaurant de burger, il y a un bar qui est plus cocktail, donc il y a vraiment un peu toutes les ambiances dans un lieu qui est très sympa, donc définitivement quelque chose que je conseillerais. Ça s'appelle le Howard Smith Wharves.
Ok, super. Merci beaucoup.
De rien.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je dirais de trouver une maison à Brisbane assez rapidement, qu'on puisse acheter. C'est vraiment le truc. Là, on a encore des visites aujourd'hui, donc on fait nos visites à distance. C'est la famille de mon copain qui y va et qui nous FaceTime. C'est comme ça qu'on
D'accord.
Donc, ouais, je pense que c'est ça, trouver une maison rapidement. Et puis, pour le reste, que ça continue comme maintenant, parce que la vie est plutôt belle.
Ben, on vous le souhaite. On vous le souhaite pour toi et puis pour ton copain. On espère que tout se passera merci. Bien et que vous trouverez la belle maison dans laquelle investir.
Oui, merci.
À bientôt. Merci beaucoup, Adélaïde.
Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner à notre micro, j'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.